Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
L'académicien parlait de l'écrivain en ces termes. Il est le plus élégant des bagnards et le plus profond des dandys. Et d'ajouter, il ne suffit pas d'être rebelle pour s'assurer une place dans la mémoire des hommes. Ce qui soutenait sa révolte, c'était un immense talent qui l'a poussé jusqu'au génie. Mais selon une vieille loi qui ne sera jamais abolie, c'est l'épreuve et la souffrance qui vont le révéler à lui-même. La biographe, elle, brosse un portrait intime d'un homme qui a marqué l'histoire de la littérature et offre ainsi une perspective complète et nuancée sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. L'académicien, c'est Jean d'Ormesson, l'écrivain, c'est Oscar Wilde, et la biographe, c'est Béatrice Balti, qui nous propose son dernier ouvrage, Oscar Wilde, le dernier romantique, paru en 2023 aux éditions Complicité, et lauréat du premier prix dans la catégorie biographie de l'Académie des livres de Toulouse. Bonjour Béatrice Balti.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Parole d'auteur. Je salue nos auditeurs et leur rappelle de suite qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes formes. Donc Béatrice Balti, première question. Oscar Wilde, le dernier des romantiques, le dernier romantique, pourquoi ce sous-titre?
Alors, l'expression n'est pas de moi, donc c'était un contemporain et ami d'Oscar Wilde qui a écrit sur lui, qui s'appelait Vincent O'Sullivan, et qui trouvait que même si la période romantique était déjà terminée, cette fascination pour sa propre chute, le désir de prendre des risques, tout ça c'était quand même des notions très romantiques. Donc ce Vincent O'Sullivan, qui était un Américain, donc l'a appelé comme ça, et j'ai trouvé que ça lui convenait très bien.
Alors, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque vis-à-vis de la compréhension actuelle du mot romantique, il est bien évident que c'est romantique dans le sens d'une personne prête à se damner pour l'être aimée.
Exactement, c'est ça. Voilà. Et qui va prendre des risques insensés pour sa créativité et avec souvent une... La sensation qu'une tragédie est nécessaire pour un grand destin.
Oui, alors merci Béatrice Balti. Nous allons passer en revue quelques petites informations vous concernant. Donc en termes de biographie, si je ne me trompe, vous êtes née à Nérac.
Oui, absolument.
Quelque part entre Bordeaux et Toulouse.
Voilà, presque au milieu, oui.
Presque au milieu. Ensuite, vous avez suivi des études de commerce et de langues étrangères.
Oui.
Et vous avez exercé en entreprise pendant plusieurs années.
Exactement, j'ai travaillé 5 ans, entre 5 et 6 ans, donc dans une entreprise internationale à Toulouse. Et puis après, j'ai fait des études à la Sorbonne, mais alors là, d'histoire. Voilà, à l'École pratique des hautes études et puis à Paris 4, Sorbonne, pour l'histoire.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à des études d'histoire?
Parce que les langues et l'histoire étaient mes matières préférées. Donc, ayant fait des études de langue, ayant travaillé en entreprise, après, j'ai voulu faire... mon mari ayant été muté à Paris, donc j'ai fait... j'ai adoré l'histoire. Donc, en fait, les deux m'ont servi pour les biographies parce que à la Sorbonne, j'ai appris à faire des recherches et les langues, comme je fais surtout des bios sur des auteurs britanniques, donc je me base sur les bouquins américains ou anglais.
Et donc, on peut dire que vous êtes d'abord une biographe.
Oui.
Et avec donc une période de prédilection et une région de prédilection.
Oui, j'aime beaucoup le 19e par exemple. Donc c'est vrai que mes 4 dernières bios sont des biographies sur des gens qui sont nés dans la même décennie.
1850, 1860.
Exactement.
L'époque victorienne.
Exactement. Voilà.
Alors le dernier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Oscar Wilde. Sinon, vous avez écrit... un ouvrage sur Arthur Conan Doyle.
Oui.
Vous avez écrit sur James Matthew Barrie.
L'auteur de Peter Pan.
L'auteur de Peter Pan.
Voilà.
Et sur Stevenson.
Voilà, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
D'accord. Donc on peut dire qu'à cet égard, vous êtes une grande spécialiste.
Je commence à connaître un peu la période, mais chacun de mes sujets est complètement différent de l'autre, en fait. Hein. Ils n'ont rien à voir, ils se connaissaient souvent entre eux, mais ce sont des auteurs qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça qui m'a intéressée aussi.
D'accord. Donc, un renouvellement d'auteur.
Exactement, de personnalité. Il y en a qui sont très équilibrés, qui ont le sens de l'aventure et du suspense, comme Conan Doyle. Il y en a qui, comme Stevenson, c'est encore autre chose. Très équilibré, mais malade et fasciné par le protestantisme écossais. Beaucoup plus tourmenté, c'est l'auteur de Peter Pan. Et Oscar Wilde, c'est un Irlandais qui est flamboyant, qui avait tout pour réussir. Et malheureusement, sa vie va s'arrêter à 46 ans.
Nous allons le voir en détail. Auparavant, j'aimerais bien que vous nous essayiez de nous définir le style biographie. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'une bonne biographie ?
Alors, je pense que la biographie doit être précise. Elle ne doit pas partir dans des directions personnelles, mais elle doit être, j'essaie de travailler sur ça, elle doit être faite avec le but de avec un style simple et fluide, il faut que le lecteur ne soit pas ennuyé par trop de dates. Il faut que finalement, on rentre dans la vie de quelqu'un en aimant cette personne, quelle qu'elle soit, en fait. Et donc, pour ça, moi, il y a des biographies que j'ai adorées, d'autres que j'ai trouvées très lourdes. Donc, j'essaie, moi, d'aller plutôt vers celles qui sont fluides, pour que le lecteur, ça soit presque comme un roman, et non pas comme une avalanche de dates et de faits, quoi.
Est-ce que ça signifie qu'une bonne biographie doit être une biographie romancée ?
Alors, moi, j'essaie de pas trop romancer parce que mes sujets ont des destins tellement intéressants que j'essaie par contre de mettre des dialogues ou pour que ça soit vivant. Mais mes quatre sujets étaient très intéressants. J'ai pas eu besoin vraiment d'inventer.
D'accord. Pour être une bonne biographe, il vaut mieux être un bon écrivain, c'est-à-dire bien écrire, ou une bonne chercheuse.
Alors, je suis contente d'avoir commencé par le roman historique. J'ai fait un roman, etc. Mais en fait, ayant fait ma rédaction qu'avec mes recherches, ça aurait été trop sec. Donc j'ai peaufiné au cours des années. Donc ça va faire 24 ans que mon premier livre est sorti. Et donc forcément, on maîtrise mieux l'écriture. Et donc je suis contente parce que là, les biographies sont mieux finies. Et donc il faut à la fois être un bon chercheur et un bon écrivain.
D'accord. Alors, est-ce que ça prend longtemps d'écrire une biographie ? Par exemple, pour les quatre dernières que vous avez écrites, est-ce que vous y avez passé à peu près le même temps ou ça a été différent selon les personnages ?
Ça a été différent, mais sur celui-là, j'ai fait une année de recherche, mais j'ai travaillé beaucoup plus d'heures dans la journée. Parce qu'en fait, au départ, il faut ingurgiter, il faut lire, il faut... prendre des notes, comparer des infos, ça c'est un long travail. Et après, il faut trouver un fil qui n'est pas le fil d'un autre biographe. C'est pour ça que moi j'ai choisi le côté romantique, parce que pour moi c'est un trait de caractère évident d'Oscar Wilde. D'autres se sont attachés au fait que c'était un martyr gay, entre guillemets, etc. Moi, c'était, je me suis attachée à ce point qui était pour moi déterminant pour Oscar Wilde.
D'accord. Et le processus d'écriture, c'est quelque chose qui varie selon les personnages. Vous travaillez d'abord, vous accumulez les informations et vous vous mettez à la table d'écriture, oui. Ou c'est par séquencement?
Alors, je commence les recherches, donc beaucoup de lectures, de prises de notes. Et puis parfois, quand je prends les notes, ça ressemble à parfois un début de chapitre. Donc là, ça, je vais le garder après. Et après, il faut que quand je me mets à l'écriture, j'ai quand même déjà fait une trame solide, quoi. Voilà.
Et grosso modo, votre manière d'appréhender le personnage est un personnage que vous apprenez d'abord à connaître et dont vous avez finalement envie de faire la promotion auprès de vos lecteurs.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, bon, Oscar Wilde, je voulais le traiter ce sujet déjà depuis longtemps, mais en fait, Stevenson m'a amenée à l'auteur de Peter Pan parce qu'ils étaient amis, même s'ils étaient complètement différents. Mais Stevenson avait invité aux îles Samoa James Matthew Barrie, et Barrie connaissait bien Oscar Wilde, connaissait bien Conan Doyle, et Conan Doyle, au début, est ami avec Oscar Wilde. Donc, chacun de mes sujets m'a entraîné vers le suivant, en fait. Parce qu'il y a un moment où ils se rencontrent, où ils échangent des courriers, etc. Donc, j'ai traité ces quatre-là parce qu'ils sont extrêmement différents et ils sont vraiment contemporains.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de biographies ont été écrites, de biographies d'Oscar Wilde?
Non, je ne peux pas vous dire, je dirais au moins une trentaine, parce que au moins les deux tiers en langue anglaise, donc par des Anglais ou des Américains, puisqu'il avait quand même sillonné les États-Unis pendant un an pour faire des conférences, donc il était quand même très populaire aux États-Unis. Et en France... Donc j'évite de lire les bios françaises parce que je ne veux surtout pas être influencée et risquer de faire après quatre lignes pareilles. C'est le problème, pour ça que je préfère les livres en anglais.
Ouais. Et ça doit être effectivement la difficulté,
oui, hein, ouais, c'est ça.
De ne pas faire du copier-coller.
Non, finalement. Exactement. Ouais, j'évite parce que voilà, il faut trouver son fil. Ça, c'est pas évident. Hein.
Alors passons à la biographie d'Oscar Wilde. Et juste, vous commencez le livre par une sorte de flashback.
Oui.
Et dans ce premier chapitre, il rencontre une personne.
Oui.
Qu'il avait connue par le passé. Est-ce
Absolument.
Que vous pourriez nous donner des détails?
Alors, c'est une chanteuse lyrique qui était australienne. Et qui va connaître Oscar Wilde. C'est pas une de ses amies les plus proches. Oscar Wilde et adorait la compagnie de femmes talentueuses. Donc on le verra peut-être plus tard, mais notamment des actrices de théâtre, enfin des comédiennes, dont Sarah Bernhardt et puis des Anglaises aussi. Mais le hasard fait que il y a à un moment donné, quand il va être complètement démuni à Paris. Après l'épreuve des travaux forcés, donc ce qui va lui arriver, il va essayer de quémander un peu d'argent auprès de cette femme qu'il a reconnue, mais elle, par contre, ne l'a pas du tout reconnue. Et il est tellement aux abois parce que il devient de plus en plus accro à l'alcool qu'elle est tellement étonnée de le voir là et elle va vider son sac en donnant les quelques pièces qu'elle avait dans son sac. Mais c'est une femme qui était la chanteuse lyrique en vogue à l'époque.
Alors, et cette femme s'appelle Nelly Melba.
Voilà, elle va donner le nom à la pêche Melba. C'est un cuisinier qui va s'inspirer de cette femme, donc et qui va donner. Donc, elle était quand même très connue à l'époque.
D'accord. Donc, je vous propose d'écouter Nelly Melba. Et j'avertis nos auditeurs que c'est un enregistrement qui est très ancien, puisqu'il date de...
À peu près 1920 ou 1910, enfin, ça fait plus de 100 ans en tout cas.
Voilà. Donc nous écoutons Nelly Melba.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Béatrice Balti pour son ouvrage Oscar Wilde, le dernier romantique. Béatrice Balti, donc nous venons d'entendre la fameuse Nelly Melba dans Soir païen,
oui,
c'est bien ça?
Voilà.
Donc, et qui était donc une grande chanteuse lyrique de l'époque.
Exactement, ouais. et une connaissance d'Oscar Wilde.
Bien. Alors, est-ce qu'Oscar Wilde, il a eu une vie très, très particulière, comment vous pourriez la caractériser?
Alors, c'est d'abord un pur Irlandais. Le père est un grand spécialiste des oreilles et des yeux, à tel point que quand la reine Victoria se rend en Irlande, il est le médecin attitré de la reine Victoria. Il va fonder aussi un hôpital des yeux et des oreilles. Donc, il a eu une formation à l'étranger, notamment en Autriche. À l'époque, Vienne était très réputée pour l'ophtalmologie. En Allemagne, à Heidelberg, etc. Et c'est quelqu'un de très calé. La mère d'Oscar Wilde, par contre, est... C'est une femme douée, poétesse, fantasque. Une femme d'1m80 et qui a été au départ très proche des nationalistes irlandais. Elle va s'intéresser beaucoup à l'histoire celte de l'Irlande. Et donc, Oscar Wilde naît dans une famille de gens relativement privilégiés et cultivés.
Et donc, Oscar Wilde, étant dans un milieu privilégié, va bénéficier d'une éducation,
oui,
qui va, enfin, je dirais, haut de gamme, si,
oui,
on, si on peut dire. Et il va passer notamment par le Trinity College,
voilà,
et par Oxford.
Voilà.
Alors, le fait de fréquenter ces deux établissements de renom va lui faire rencontrer un certain nombre de personnes,
voilà,
et va déterminer chez lui une certaine culture. Ça va être marqué. Il va être marqué par un certain nombre d'influences.
Oui.
Alors, par rapport au Trinity College.
Alors, par rapport au Trinity College, c'est là qu'il va découvrir. Alors, il y a un révérend qui s'appelle le révérend Mahaffey. Donc, alors, il faut dire aussi, je n'ai pas dit que, au départ, il est protestant. Il fait partie de la minorité protestante de l'Irlande, hein, Oscar Wilde. Et ce révérend Mahaffey est un pasteur grâce à lui, il va rentrer dans l'apprentissage des lettres classiques anciennes. Et il va s'intéresser de plus en plus au latin et surtout au grec. Voilà, et ça va continuer après Oxford. Il va commencer aussi à voyager en Italie. En Grèce, ça va être le coup de foudre. Il va se régaler et il part. Il va voir tous les lieux emblématiques d'Olympie, de l'Acropole. Mais pour lui, ça a beaucoup de résonance. Et il était devenu très, très bon en lettres grecques, quoi.
Donc, ça a été déterminant par rapport à ses acquaintances avec le mouvement helléniste.
Bien sûr.
Et une autre influence, c'est l'influence exercée par Walter Pater.
Oui, Walter Pater. Il y a déjà le goût de l'esthétisme. Mais pour Pater... d'abord, je crois que c'est John Ruskin le premier. Et... Donc, qui va plus mettre l'esthétisme, mais avec de la morale. Et Walter Pater, c'est vraiment la philosophie de l'art pour l'art, art for art's sake. Et la morale n'entre plus tellement, c'est plus tellement important. C'est d'abord l'art. Et donc, il va évoluer, Oscar Wilde, avec ça. Il est brillantissime. Il a pratiquement toujours les premiers prix. Alors, il a un look assez nonchalant, qui cultive aussi, parce que c'est bien de réussir sans avoir l'air de trop se fatiguer. Mais en fait, c'est un gros travailleur. Il est très, très brillant. Donc, il va quitter toujours avec des mentions, avec des premiers prix. Donc, il est, malgré son côté très fantaisiste, il est quand même très apprécié par les professeurs.
Et donc, rapidement, ils se font aussi dans le milieu artistique londonien, rencontrent des comédiennes célèbres, dont Sarah Bernhardt d'ailleurs.
Voilà.
Et très rapidement aussi, puisqu'il est encore très jeune, il est sollicité pour une série de conférences aux États-Unis sur l'esthétisme britannique.
Voilà.
Et est-ce qu'on peut dire que... c'est cette tournée aux États-Unis qui a boosté sa notoriété.
Alors, aux États-Unis, c'est certain, mais même en Angleterre, parce que, disons que jusque-là, il n'avait fait qu'un recueil de poèmes. Alors, il était un poète très prometteur. Quelques-uns de ses poèmes sont très beaux. Un avait été accusé d'être ambigu, mais... jusque-là, c'était ce recueil de poèmes, c'était à peu près tout ce qu'il avait écrit. Et là, il a quand même une très forte somme d'argent. Au départ, les Américains s'amusent. Il est très critiqué parce qu'on pense que ça va être un homme un peu efféminé, qui va leur parler d'esthétisme. Les Américains sont des descendants de pionniers, c'est pas tellement la mentalité. Et puis finalement, il a su s'adapter complètement. Il va passer d'étudiant de Harvard à des mineurs, à des cow-boys. Il va toujours être gentil et toujours déjà un esprit. Il est très spirituel. Il va trouver la petite chose rigolote dans la situation. Ça va être une de ses marques de fabrique aussi. Et finalement, les Américains, à la fin, vont dire « On était prêts à se moquer de lui, à le ridiculiser. » En fait, il était très bien. Et il faut dire, à l'époque, il n'avait que 26, 27 ans, quoi, quand il a fait cette tournée.
Voilà. Alors ensuite, Oscar Wilde continue sa vie et se marie avec Constance.
Avec Constance.
Alors,
Lloyd, voilà.
Qui est Constance ?
Constance est une Irlandaise, 100% Irlandaise aussi. C'est une femme qui aime l'esthétisme aussi, mais alors elle est, c'est pour elle, c'est pas du tout sans moralité. C'est pas comme le deuxième professeur d'Oscar Wilde. Elle va écrire des articles de journaux. Elle aime l'engagement, donc elle va s'engager un peu même dans l'ésotérisme. Alors au début ils sont très complices. Et puis, elle va avoir deux grossesses très rapprochées. Et c'est au moment de la deuxième grossesse qu'ils vont commencer à se séparer. Je parle physiquement tout en gardant les apparences. Et lui, en fait, se rend compte que bon, il est plutôt attiré par les garçons. Il a 31 ans, donc il y a pas mal d'années qui sont passées. Et elle, du coup, va beaucoup s'engager dans de plus en plus s'engager dans des mouvements même ésotériques.
Et en parallèle, Oscar Wilde continue, je dirais, sa carrière.
Il écrit de plus en plus.
Il écrit de plus en plus. Et je crois aussi qu'il exerce une fonction de rédacteur en chef.
Pendant 2 ans, ouais. Il est rédacteur en chef dans un journal féminin qui s'appelait au départ Ladies World. Et il va le moderniser complètement. Il va faire quelque chose qui est beaucoup plus vendu. Et il va l'appeler, au lieu de Lady, qui était quand même un peu sélectif, ça va être Women's World. Donc, c'est le monde de la femme et non pas le monde de la dame. Et puis, il est curieux. Et au bout de 2 ans, on va lui mettre pas mal de bâtons un peu dans les roues parce qu'on veut faire du commercial en enlevant de la qualité. Donc là, il va commencer à vouloir écrire un fameux roman qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray, qui va être un de ses chefs-d'œuvre, hein, peut-être le plus connu, qui est un livre faustien. Donc, où il y a de l'esthétisme, mais il y a de la tragédie. C'est un livre magnifique certains y ont vu et pas à tort un peu d'homosexualité refoulée.
Et peut-être un petit peu de provocation, parce que c'est quand même un ouvrage qui a fait scandale.
Oui.
Et c'est un ouvrage d'ailleurs...
Aux États-Unis, il a été adoré, curieusement.
Oui, oui, oui. En Grande-Bretagne, il y a eu d'ailleurs plusieurs versions, plus ou moins censurées.
Alors voilà, au départ, l'éditeur va accepter d'enlever pas mal de mots. Il va même lui conseiller ça. Et il va rajouter un ou deux chapitres aussi pour donner plus d'épaisseur à l'intrigue. C'est un bouquin clivant parce que il y a quand même des journalistes qui reconnaissent le style et la fin terrible, qui sont absolument enthousiastes, et d'autres qui vont le critiquer beaucoup en disant que c'est trop ambigu, trop... Voilà, mais curieusement, ce beau Dorian, qui est un magnifique jeune garçon, il va trouver sa personnification avec l'un de ses fans, qui, justement, a lu 12 ou 13 fois de suite Dorian Gray. Et c'est un certain Lord Alfred Douglas, dit Bosie. Il va devenir son amant, donc.
D'accord. Et alors, donc, c'est à partir de là que la publication de cet ouvrage, plus, je dirais, la rencontre avec Bosie, dans le cadre... je dirais, de son esprit un petit peu provocateur, où il va y avoir peut-être de leur part un affichage peut-être trop excessif, qui n'est pas supportable par la société victorienne, qui va être en quelque sorte le déclencheur, le début d'une descente aux enfers.
Alors, au départ, curieusement, c'était un peu la phrase « pas vu, pas pris ». Donc, tout le monde se doutait qu'il était homosexuel et il s'affiche de plus en plus avec Bosie. Ça n'est que lorsque le père de Bosie, qui est le marquis de Queensberry, quand celui-ci va se douter de quelque chose, il faut dire que déjà son fils aîné a été l'amant du premier ministre de la reine Victoria. Quand il va commencer à venir harceler Oscar Wilde à son théâtre, à son domicile, et lui laisser une carte de visite absolument insultante à son club privé, donc là, Oscar Wilde ne voit plus qu'une solution. Au départ, c'était quand même Bosie qui voulait qu'on attaque son père. Et lui, il n'était pas du tout enthousiaste. Et là, il y a eu tellement de choses, d'incidents, qu'il va finalement poursuivre le marquis de Queensberry. Et c'est là, il n'aurait pas fait ça tout le monde, son homosexualité n'aurait pas été... il n'aurait pas été poursuivi parce qu'il y avait pas mal de cas. Donc déjà, le premier ministre, qu'il avait été un temps, donc c'est Lord Rosebery hein, qui... voilà. Mais c'est le fait que, une fois qu'il a commencé à poursuivre le marquis de Queensberry, donc le père de Bosie, le marquis va accumuler, grâce à des détectives, plein de preuves, comme quoi il se rendait dans des hôtels pour garçons, etc. Ça, c'est une enquête qui va durer des mois. Et ben après, lui, il est très confiant. Oscar Wilde est très confiant. Mais petit à petit, il ne peut pas nier l'évidence.
Finalement, en attaquant, il franchit le point de non-retour.
Exactement.
Et va courir à sa perte.
Il court à sa perte. Ça va lui être très dur. C'est pour ça qu'il va écrire De Profundis. Parce que quand il dit « Je suis là, je me trouve là, parce que je me suis mis entre votre père et vous. C'était en fait une haine entre le fils et le père. Et lui, il a servi... de bouc émissaire quelque part, parce que il voulait pas poursuivre le marquis, finalement il a été obligé de le faire, mais bon, les travaux forcés, les 6 premiers mois ont été épouvantables.
D'accord. Et donc c'est donc le point de non-retour, et ensuite vous évoquez dans le détail la perte du procès,
oui.
L'incarcération,
oui.
Enfin la condamnation, l'incarcération et les conditions de vie
conditions
dans la prison.
Vie.
Alors effectivement, vous décrivez ces conditions et on comprend très vite que c'était quelque chose de très très difficile.
Très dur. C'est-à-dire les 6 premiers mois, c'était fait pour casser le condamné aux travaux forcés. Donc c'était... il y avait des travaux qui étaient épuisants, mais il y avait ensuite, en plus, quelque chose qui était fait pour casser le prisonnier, comme cette espèce de roue, le treadmill, qu'il faut monter sur des espèces de marches sans fin, toute la journée. Alors, toutes les heures, on s'arrête un quart d'heure, et à la fin de la journée, ils ont escaladé 2200 mètres. Ça sert absolument à rien. C'est même pas pour créer de l'électricité ou comme ça. C'est juste pour les épuiser, les casser. Alors, ce qui est très dur aussi pour un homme de lettres, il faut voir, Oscar Wilde, il avait tellement d'amis, de contacts. Il prenait les plus grands architectes pour décorer sa maison. Il se retrouve dans une cellule crasseuse avec un fenestron à 3 mètres de hauteur. Des planches de bois pour dormir directement. Et interdiction de parler et aux surveillants et aux co-détenus. Donc en fait, c'était le silence complet pendant 6 mois. On imagine l'angoisse et le stress, quoi.
Voilà, et ça a été donc quelque chose qui va le marquer.
Absolument.
À vie. Et nous allons voir, après cette deuxième pause musicale, la manière dont il a pu s'en sortir. Entre guillemets.
Oui, entre guillemets.
Thank you. giunge a tello.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre entretien avec Béatrice Balti pour son ouvrage Oscar Wilde, le dernier romantique. Béatrice Balti, nous venons d'entendre un morceau d'Othello de Verdi. Lequel, oui, précisément?
C'est aussi chanté par Nelly Melba.
Voilà. Et donc, on mesure la différence de qualité d'enregistrement.
Oui.
Et paradoxalement, ce sont des enregistrements qui ont été faits à peu près au même moment.
Il y en a un qui a été retravaillé.
Sans doute. Alors, revenons à Oscar Wilde. Oscar Wilde, donc, nous étions en train de l'expliquer,
voilà,
a été condamné, est enfermé dans une prison dans des conditions épouvantables.
Absolument.
Et finalement, il va purger sa peine. Il va sortir de prison. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il veut se remettre à l'écriture. Il va commencer à s'installer. Alors, pour lui, la Grande-Bretagne, c'est terminé. Il ne veut plus du tout rester dans ce pays qu'il a condamné. Et donc, il est très, comme beaucoup d'Irlandais, il est très francophile. Il parle un français d'ailleurs parfait. Et il va d'abord s'installer à Berneval, qui est pas très loin de Dieppe, une station où il va se reposer. Au départ, il est très enthousiaste et il pense qu'il va se remettre à l'écriture. Là, il y a André Gide qui vient le voir. Enfin, il est plein d'espoir. Il pense à écrire une nouvelle pièce de théâtre. Et puis finalement, l'hiver arrive. Donc là, ses amis anglais ou irlandais sont repartis. Donc il a un coup de cafard. Et là, il va partir. Il va reprendre contact avec Bozzi. Or, il avait l'interdiction formelle de le recontacter. Et de sa femme, il faut dire qu'entre-temps, bien sûr, le couple s'était séparé, que sa femme lui versait une pension à la condition expresse qu'il ne revoie plus jamais Bozzi. Et la mère de Bozzi, c'était la même condition. Elle avait interdit à Bozzi de revoir Oscar Wilde. Donc, ils vont partir en Italie, mais lorsque ça se sait au bout de 2 mois, ils n'ont plus un sou, ils sont obligés de rentrer en catastrophe. Donc, après, il va faire des petits sauts à la fois sur la Côte d'Azur. Il va toujours en essayant de se remettre à l'écriture, mais quelque chose a été cassé définitivement dans les différentes prisons. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce que il se met à boire parce qu'il ne peut plus écrire et puis il devient alcoolique et donc ne peut plus écrire. Donc c'est quelque chose de triste. Il a toujours un peu d'espoir. À un moment donné, il y a une pièce qui est sur le point d'être jouée, une nouvelle pièce, mais le metteur en scène meurt, un Américain meurt subitement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre des jeunes écrivains inconnus ou au cognac et au champagne, il ajoute l'absinthe. Tous ses anciens amis parisiens sont morts, beaucoup. Il était très ami avec Mallarmé, encore plus ami avec Paul Verlaine, qui est mort, etc. Donc, même André Gide, qui a la même particularité que lui. Et André Gide, en fait, est méfiant. Enfin, il est prudent, disons. Et il va éviter de le rencontrer trop à Paris. Donc, il est à peu près seul avec un ou deux amis qui viennent le voir d'Angleterre de temps en temps. Il vivote dans un petit hôtel de Saint-Germain, mais qui est très, très simple et avec une chambre, avec une tapisserie de mauvais goût. Donc, c'est terrible parce que il s'enfonce progressivement.
Voilà. Et donc, finalement, Oscar Wilde va finir sa vie dans des conditions extrêmement précaires.
Oui.
oublié de tous, sauf d'un petit carré d'amis, mais dans l'oubli. Et paradoxalement, toute cette descente en enfer, il la vit comme il l'accepte finalement, puisqu'il la vit un peu comme une fatalité.
Oui, il l'accepte parce que bon, ça faisait des années qu'il voulait se convertir au catholicisme. Et il aimait beaucoup, il était persuadé que tout grand destin comporte une tragédie. Et son modèle était Jésus-Christ, ça semble curieux, mais souvent il va, d'ailleurs quand il est en prison, il va demander la vie de Jésus de Renan. Et finalement, son ami, il a un ami anglais qui est comme lui, hein, homosexuel aussi, mais qui est un très fidèle ami et qui est protestant. Il va accepter, quand il voit qu'il est en train de perdre, que sa conscience est en train de diminuer, il va faire venir en catastrophe un prêtre à Paris pour le convertir, parce qu'il sait qu'il voulait devenir catholique. Donc, alors, il commence à ne plus pouvoir parler, mais il est encore conscient. Donc, il fait des petits signes de la main et de la tête. Et la veille de sa mort, il devient catholique, en fait. Voilà, c'est un peu... Et il avait adoré Rome, le Vatican. Il avait rencontré le pape à plusieurs reprises aussi. C'était quelqu'un qui avait besoin de mysticisme et de beaucoup de spiritualité.
Et donc que toute sa vie aurait été marquée par le fait que finalement il avait tout pour réussir, tout pour être heureux. Et effectivement, cette descente aux enfers, cette perpétuelle attitude en test par rapport à la provocation, par rapport à l'atteinte des limites, va se retourner contre lui. Alors, le personnage en lui-même, au niveau physique, comment est-il? Comment on peut le décrire?
Alors, jeune, il a beaucoup de charme. Il a des yeux clairs, délavés, en fait. Il est grand. Comme sa mère faisait 1m80, donc lui, il fait plus que 1m80. Il a vraiment beaucoup de charme. Tout le monde s'accorde à dire ça. C'est pour ça que toutes les femmes, en fait, sont folles de lui. Hein. Donc, après, avec la vie qu'il mène, donc il va prendre quand même quelques kilos. Il va essayer plusieurs coiffures aussi. Et celle qui lui allait le mieux, c'était la coiffure justement romantique et cheveux mi-longs. Alors qu'il avait encore cette coiffure qui était très en vogue 30 ou 40 ans plus tard chez les romantiques. Mais lui, il va continuer à l'avoir. Mais alors que là, la mode, c'était plutôt pour les hommes, la moustache, les pattes longues et les cheveux courts.
Donc c'était en rupture par rapport à l'époque.
Voilà, absolument. Oui. Mais il s'en fiche parce qu'il adore être original. Et après, bon, il aura un look un petit peu différent, mais...
C'est toujours, ça revient toujours à la même chose, c'est qu'il veut se différencier des autres. Oui. En même temps, il souhaite marquer sa différence en poussant un peu à la provocation aussi.
Oui, oui.
Et vous dites plusieurs fois dans le livre qu'il sort pour festoyer avec les panthères, c'est-à-dire que finalement, il accepte, plus ou moins consciemment d'ailleurs, de se mettre en péril.
Oui.
En risquant ce qu'il a de plus cher.
Exactement, parce qu'il risque, sa famille, sa carrière, sa maison. Et d'ailleurs, il les risque tellement que tout va disparaître. Hein. Il va perdre sa famille, il ne reverra plus jamais ses fils, et il va revoir deux ou trois fois sa femme, et sa femme va mourir très jeune. Il va perdre évidemment sa maison qui va être vendue aux enchères. Sa carrière est absolument terminée dans un premier temps. Et c'est surtout après sa mort qu'elle va repartir. Mais il n'est plus là pour la voir. Mais c'est cette adrénaline procurée par le danger qui est nécessaire à sa créativité.
Voilà, et qui ne l'a pas lâché. Et dans votre livre, vous écrivez, c'est un romantique qui, tel un poète maudit, forcément condamné au désastre, voyait dans sa coupe pleine à ras-bord le nectar du succès qui se transformait en cendre au fur et à mesure qu'il la buvait. C'est-à-dire, il était presque en pleine conscience, mais aucun moyen pour s'arrêter, aucun moyen pour se mettre des limites.
Il avait besoin de ça pour écrire, parce que il a une œuvre extrêmement variée. C'est quelqu'un qui est passé des essais presque politiques à des poèmes, à des pièces de théâtre un peu sévères comme Vera et les Nihilistes, à des pièces de théâtre beaucoup plus légères à la Phédo comme L'important d'être constant, Un mari idéal, etc. Ou Salomé, qui était une pièce symboliste qui aurait dû être jouée par Sarah Bernhardt, et comme entre-temps il a été condamné, donc elle a été jouée après par une autre actrice. Voilà, c'est quelqu'un de très riche et qui finalement, pour être touche à tout comme ça, mais c'est touche. Touche à tout, c'est pas du tout dans un sens péjoratif. C'est quelqu'un qui était bon dans tout ce qu'il entreprenait, quoi. Le portrait de Dorian Gray, c'est un livre magistral. Il est très bon dans ce roman, il est très bon dans ses essais, il est très bon dans ses pièces de théâtre légères, etc., dans ses poésies. Et c'est d'autant plus dommage de voir son succès qui s'est transformé en cendre. Donc, comme le disait Vincent O'Sullivan.
Alors, on voit le poids de la fatalité sur sa vie. Et alors, il s'est engagé, il avait des conceptions issues des influences qu'il avait subies, de manière positive, en affirmant l'indépendance de l'art par rapport à la morale et la supériorité de l'esthétique par rapport à l'éthique.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui avait marqué à son époque, parce que ça provoquait le scandale.
Oui.
Ses propos en disant « L'artiste est le créateur de belles choses, il n'y a pas de livre moral ou immoral, il y a les livres sont bien ou mal écrits, voilà tout. Aucun artiste ne désire prouver quoi que ce soit, même les choses vraies peuvent être prouvées, tout art est complètement inutile. »
Voilà, alors il dit ça en partie, mais aussi dans la préface du portrait de Dorian Gray, « Il n'y a pas de livre moral ou immoral, il est bien ou mal écrit et c'est tout. » C'est vrai que maintenant, ça semble un peu évident, ça, parce que... Et surtout quand on lit le portrait de Dorian Gray, parce que ça reste quand même... L'écriture est absolument splendide. C'est quand même une histoire très, très forte. C'est un livre qui ne choque absolument pas maintenant. À l'époque, c'était pas la même époque et... Et donc, c'était quelque chose... Disons que ces allusions étaient très feutrées. Et donc là, maintenant, ça passerait... des choses beaucoup plus choquantes sont éditées, quoi, maintenant.
Tout à fait. Alors, parmi ces conceptions, il y a sa conception de la critique littéraire. Et j'ai bien aimé la phrase... la critique n'est pas affaire d'objectivité, bien au contraire, le vrai critique n'est ni impartial, ni sincère, ni rationnel.
Oui, mais c'est vrai. Je trouve que Oscar Wilde avait cette faculté de trouver le côté juste des choses, c'est-à-dire c'était un des écrivains poètes le plus cité. Dans des émissions, on cite très très souvent Oscar Wilde parce que la meilleure, par exemple, des choses qui sont amusantes, mais il y a toujours un côté profond derrière le côté comique. Par exemple, la tentation, le meilleur moyen de résister à une tentation, c'est d'y céder. Il avait une manière, ça, c'est dans ses pièces légères, mais même dans ses pièces légères, il y a toujours quelque chose de profond. Et donc, moi, c'est quand même une personne extrêmement... Enfin, il avait un charme fou. C'était quelqu'un de flamboyant, qui a vécu dangereusement. Ça s'est mal terminé, mais qui a laissé une œuvre extrêmement intéressante et parfois poignante, parce que De Profundis ou la balade de la géole de Reading, c'est deux bouquins extrêmement poignants, quoi. Ça donne les larmes aux yeux.
Tout à fait. Et donc, j'encourage les auditeurs de Radio Présence à lire et à découvrir cette biographie qui, outre la narration expose la narration de la vie d'Oscar Wilde, donne beaucoup de détails sur les œuvres qu'il a écrites, oui, qui sont mises en perspective par rapport à ses prises de position.
Oui.
Et moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses et on découvre l'auteur, sa personnalité de manière très, très vivante. Je dirais aussi que la fin... d'Oscar Wilde, c'est toujours un petit peu, c'est le prolongement d'une vie un petit peu pathétique, soumis à la fatalité, et j'ai bien aimé quand il dit à la veille de mourir, je meurs au-dessus de mes moyens.
Oui, oui.
Voilà, donc conscient